Quai d'Haïti, Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à tous. Au sommaire, un tweet pour faire diversion, c'est la question que se posent les commentateurs aux États-Unis après ce tweet du président américain Donald Trump qui demande le report des élections américaines de novembre prochain. On en parle dans un instant. On va revenir aussi sur la tempête Isaias qui menace désormais les Bahamas après avoir balayé la République dominicaine. On parlera également du premier ministre canadien Justin Trudeau sur le grill hier alors qu'il est accusé de conflit d'intérêts. Et puis on évoquera ce rapport sur la pauvreté en Haïti. Et enfin en Argentine, de ce plan de lutte contre les violences faites aux femmes et aux communautés LGBT. Et on commence donc par ce tweet aux États-Unis de Donald Trump qui met le feu aux poudres. Hier, le président américain a proposé de reporter l'élection présidentielle jusqu'à ce que les gens puissent voter normalement. Fin de citation. Pour la première fois, le président candidat à sa réélection évoque un report possible du scrutin qui doit se tenir en novembre prochain. Un report par ailleurs impossible selon la Constitution américaine. Depuis, les réactions se sont multipliées et même dans son propre camp, l'idée de Donald Trump n'a pas eu vraiment l'effet escompté. Loubna Anaki à New York.
Même parmi les plus proches alliés de Donald Trump, l'idée d'un éventuel report de l'élection présidentielle a provoqué des réactions très tranchées. Mitch McConnell, le chef de la majorité républicaine au Sénat, affirme que le scrutin aura bien lieu comme prévu et que par le passé, même en temps de crise, la date de la présidentielle n'a jamais été reportée. Le sénateur Lindsey Graham, fervent défenseur de Donald Trump, a lui aussi rejeté l'idée d'un report. Position partagée par d'autres hauts responsables républicains, même s'ils se sont bien gardés de critiquer ouvertement la suggestion du président. Côté démocrate, les élus rejettent les nouvelles insinuations de Donald Trump sur d'éventuelles fraudes massives en raison du vote par courrier, largement mis en place en raison de la pandémie. Techniquement, Donald Trump n'a pas le pouvoir de changer la date de l'élection. Seul le Congrès peut prendre une telle décision. Mais la suggestion du président sortant montre une nouvelle fois qu'il a conscience de sa perte de vitesse dans la campagne. Il peut aussi s'agir d'une diversion, comme il en a l'habitude. Hier étaient publiées des données et des chiffres montrant que l'économie américaine ne va pas aussi bien que le président le répète. Loubna Anaki, New York, RFI.
Et ce tweet de Donald Trump est à la une de toute la presse américaine. Bonjour Marie Normand.
Bonjour Anne.
Et même dans les journaux conservateurs, l'idée d'un report est balayée.
Oui, pour les éditorialistes du National Review, par exemple, ce serait grotesque et contraire à l'esprit américain. Et pour ce média conservateur, Donald Trump s'est surpassé dans ce tweet. Il s'agit manifestement d'une idée incendiaire et absurde, indigne d'être exprimée ou même pensée par un président des États-Unis. Selon le National Review, toujours, c'est une nouvelle preuve du peu de cas que Trump fait de l'institution de la présidence et de son égoïsme dans l'exercice de ses fonctions.
Le National Review, Marie, qui, comme le Washington Post, s'inquiète des conséquences de ce tweet sur l'atmosphère du scrutin le 3 novembre prochain.
Oui, Trump ne peut pas changer la date des élections, mais il peut saper la confiance que nous avons en ce scrutin. C'est le titre de cet édito du Washington Post. Le journal rappelle que le vote par correspondance est déjà utilisé dans 2/3 des États américains, qu'il existe des garanties pour éviter une fraude à grande échelle. Ce qui peut arriver en revanche, et on l'a vu récemment lors des primaires à New York, les États ont du mal à gérer d'un seul coup autant de votes par correspondance. Il faut donc les aider, plaide le journal. Chaque jour qui passe sans que les élus du Congrès n'envoient d'argent à ces États augmente la probabilité d'une élection chaotique. L'administration Trump, en tout cas, n'a, elle, aucune intention de mettre la main à la poche. Pour le Washington Post, c'est simple. Trump et son parti tentent de décourager les Américains d'aller voter, car ils n'ont donné aux électeurs que peu de raisons de voter pour eux.
Une déclaration faite juste après l'annonce de très mauvais chiffres pour l'économie américaine.
Oui, avec ces deux graphiques impressionnants qui montrent la dégringolade historique du PIB à la une du Washington Post et du New York Times. Ce dernier souligne que le virus a effacé 5 années de croissance. En une du New York Post, d'ailleurs, un dessin montre l'oncle Sam et ses billets tombés du ciel. Quand toucherons-nous le fond, s'interroge ce tabloïd. Comme c'est souvent le cas, commente encore Politico, Trump a donc jeté son tweet sur l'éventualité d'un report de l'élection à un moment opportun pour lui, pour changer de sujet, faire diversion. Et ça a encore marché, conclut le média en ligne.
Autre sujet, Marie, la tempête Isaias est devenue un ouragan de catégorie 1 et menace désormais les Bahamas après avoir balayé la République dominicaine.
Oui, Isaias, qui est resté sur la République dominicaine pendant une journée entière, écrit Diario Libre, avec de fortes pluies qui ont provoqué des inondations dans plusieurs provinces, notamment celles d'El Ceibo et d'Atomayor, où des rues sont complètement sous les eaux en ce moment. La tempête a fait un mort, a endommagé des cultures et laissé derrière elle des dizaines de familles sinistrées. Cette nuit, le nord d'Haïti a commencé à son tour à ressentir les effets d'Isaias. Certains départements du Grand Nord sont sous la pluie et subissent des rafales de vent considérables. Et c'est ce qu'écrit le Nouvelliste.
Au Brésil, le Covid-19 sévit toujours autant. Le Brésil, qui est le deuxième pays au monde le plus touché en nombre de décès. Lula, l'ancien président, est sorti de sa réserve hier. Il a convoqué les journalistes par visioconférence pour dire ce qu'il pensait de la gestion de la crise actuelle par l'actuel président Jair Bolsonaro, qui en a pris pour son grade. À São Paulo, Martin Bernard.
Selon Lula, Jair Bolsonaro est le produit de l'élite brésilienne et il ne sait pas gérer la pandémie du coronavirus.
Si le Brésil avait suivi les règles du bon sens et avait fait ce qu'il devait faire, on ne se retrouverait pas aujourd'hui avec un bilan de 90 000 cadavres qui transforme Bolsonaro en un génocidaire.
Le Brésil est aujourd'hui le pays le plus touché par la pandémie au monde après les États-Unis. Lula critique la soumission inconditionnelle du Brésil envers Washington. Il qualifie Jair Bolsonaro de lèche-botte de Donald Trump. L'ancien président accuse le leader de l'extrême droite brésilienne de détruire la politique internationale élaborée par son gouvernement au début des années 2000.
Le Brésil a une dette envers l'Afrique en raison de 350 années d'esclavage. Le Brésil ne peut pas payer cette dette avec de l'argent. Mais le Brésil doit faire preuve de solidarité avec des transferts de technologie, avec la création d'universités pour aider l'Afrique à se développer.
Lula ne fait pas de pronostic avant la présidentielle de 2022. Pour l'instant, il est inéligible, mais il compte sur la Cour suprême pour annuler sa condamnation pour corruption. Martin Bernard, São Paulo, RFI.
Et on vous retrouve, Marie Normand, pour la suite de la revue de presse. On va parler du Canada et de Justin Trudeau, le Premier ministre, qui était sur le grill hier.
Oui, auditionné par la commission des finances de la Chambre des communes, il a nié tout conflit d'intérêt dans l'affaire de ce gros contrat octroyé à une organisation caritative qui employait aussi des membres de sa famille. Le Globe and Mail s'étonne de la ligne de défense du Premier ministre. Il soutient qu'il n'avait pas d'autre option, qu'il n'a fait que suivre les recommandations de hauts fonctionnaires. Anne.
Et en Colombie, enfin, Marie, les joies de la visioconférence au travail.
Oui, une mésaventure qui est arrivée à la sénatrice écologiste Angélica Lozano lors du vote par visioconférence du projet de loi qui permet justement l'organisation virtuelle des sessions du Congrès. Écoutez. Voilà, la sénatrice a visiblement oublié d'éteindre son micro. Je ne vais pas traduire, Anne, mais on l'entend proférer des grossièretés sur ses collègues qui, pour certains, essayent de l'arrêter. On les entend là, qui la supplient d'éteindre son micro. Alors bien sûr, toute la presse colombienne s'en délecte. Encore quelques progrès à faire pour s'habituer à ce nouveau monde virtuel.
Mais oui, tout le monde est en train d'apprendre en ce moment. Merci beaucoup Marie Normand pour cette revue de presse des Amériques.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
La situation économique en Haïti qui s'aggrave et au quotidien, la population souffre en raison notamment d'une inflation à plus de 20%. Un rapport est sorti récemment et la conclusion est sans appel. Seuls 5% des plus aisés concentrent plus de 80% des richesses dans le pays. Amélie Baron à Port-au-Prince.
Le rapport publié par le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme permet une vision claire de l'appauvrissement des Haïtiens via des tableaux comparatifs sur les trois dernières années. À cause de la dépréciation de la monnaie nationale entre 2017 et 2020, qui s'est surtout accélérée au cours des 12 derniers mois, les salaires payés en gourde aux fonctionnaires qui n'ont pas été augmentés malgré la très forte inflation ont perdu plus de la moitié de leur valeur face au dollar américain. Une drastique perte de pouvoir d'achat, comme le détaille Gédéon Jean du CARDH.
Un enseignant diplômé de l'école normale, eh bien son salaire mensuel est de 15 000 gourdes. Ça valait en 2017 $226 et contre $82 aujourd'hui. Prenons par exemple un juge à la Cour de cassation, par exemple le commissaire en chef, son salaire est 73 000 gourdes. Ça valait en 2017 $1159. Aujourd'hui, eh bien, c'est $388. Donc voici la situation en trois ans, les conditions de vie de la grande majorité de la population se sont considérablement dégradées.
Aujourd'hui, plus de 4 millions, soit plus d'un tiers des Haïtiens, font face à l'insécurité alimentaire chronique. La dégradation des conditions socio-économiques dans le pays ces dernières années a pour conséquence un déclassement des personnes qui pourtant ont un travail dans le secteur formel. Gédéon Jean est catégorique, il n'y a plus de classe moyenne dans le pays.
En Haïti, actuellement, on ne peut pas parler de classe moyenne. On peut parler de 5% de la population disposant quasiment de toutes les richesses et le reste. Donc, dans ce reste, il y a la grande majorité de la population qui vit une situation de misère abjecte. Et puis, il y a les professionnels tels que les médecins, les jeunes avocats, les enseignants, les journalistes qui vivent dans la pauvreté.
Le constat est sans appel, les droits socio-économiques des habitants étant constamment violés en Haïti, on ne peut plus parler aujourd'hui de progrès démocratique ou d'avancée en matière d'état de droit.
Pour nous, la démocratie ne se limite pas à l'organisation d'élections. Bon, on pourrait s'interroger autour des élections organisées en Haïti. Bref, la démocratie, c'est pas une question d'organisation d'élections, mais la démocratie vise l'exercice et la pleine jouissance des droits de l'homme. Et quand nous parlons des droits de l'homme, nous parlons des droits inaliénables, nous parlons de droits interdépendants, nous parlons de droits indivisibles. Donc, si nous parlons de droits de l'homme, nous parlons de choses concrètes. Nous parlons de droit à une alimentation, nous parlons de droit à la santé, nous parlons de droit au travail, nous parlons de droit au logement. Donc dans une société où la moitié de la population n'a pas accès à une alimentation suffisante, dans une société où 70% de la population n'a pas accès aux soins de santé, une société où plus de la moitié de la population vit dans le chômage, donc là on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler d'état de droit. Donc, in fine, le droit à la vie est violé.
Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Direction l'Argentine à présent, où une femme est tuée en moyenne toutes les 31 heures. Le pays est profondément touché chaque année par les violences faites aux femmes, mais aussi à la communauté LGBT. Une situation dramatique qui a empiré avec l'épidémie de coronavirus et le long confinement mis en place en Argentine pour tenter de mettre fin à ces violences. Le nouveau gouvernement argentin a présenté début juillet un plan national d'action contre les violences de genre. Un programme au budget et aux objectifs ambitieux, mais qui va aussi devoir relever d'importants défis. Les précisions de notre correspondante à Buenos Aires, Aude Villiers-Moriamé.
18 milliards de pesos, soit 220 millions d'euros. C'est un budget inédit que va déployer le gouvernement pour lutter contre les violences faites aux femmes et à la communauté LGBTQ en Argentine. Pour la ministre des Femmes, des Genres et de la Diversité, Elisabeth Gomez-Alcorta, c'est le signe que le gouvernement argentin accorde une priorité absolue à ce sujet.
L'investissement budgétaire que fait ce gouvernement pour combattre les violences machistes, mais aussi pour lutter pour l'égalité entre les genres, est sans précédent. Cela représente un bond qualitatif pour les institutions de notre pays.
La loi argentine exige que les gouvernements définissent un plan d'action contre les violences faites aux femmes tous les deux ans. Celui qui vient d'être annoncé a une approche multidimensionnelle. Il associe l'action de nombreux ministères et s'attaque aussi aux violences envers la communauté LGBTQ. J'ai demandé à Elisabeth Gomez-Alcorta de détailler certaines mesures phares prévues dans le plan du gouvernement.
La mesure principale prévoit que, pour la première fois, l'État argentin accorde une aide financière aux personnes qui font face à des risques de violence, et ce pendant 6 mois. Un autre axe très important est la construction de centres territoriaux pour le genre et pour la diversité. Ce seront des lieux où les politiques de prévention, d'assistance, de protection et d'aide pour accéder à la justice seront implantées au niveau local dans les différentes provinces du pays.
144 mesures au total sont prévues dans ce plan. 144 comme le numéro de la ligne d'urgence contre les violences machistes, ligne qui va être renforcée avec davantage de budget et d'opératrices pour assister les victimes. Durant le confinement obligatoire mis en place pour faire face à la pandémie de coronavirus, les appels au 144 ont augmenté de près de 50%. Les féminicides ont eux aussi enregistré une hausse.
Alerta en C5N, l'information nous lleva à Santa Fe. Femicidio lamentablemente.
L'organisation féministe Mumala, les femmes de la matrie latino-américaine, a recensé 158 féminicides en Argentine depuis le début de l'année 2020. Sylvia Ferreira est coordinatrice nationale de Mumala. Dans le contexte de grave crise économique que traverse l'Argentine, elle salue le plan du gouvernement et l'importance du budget déployé, mais craint que ce ne soit pas suffisant.
Sur les 18 milliards de pesos de budget prévus par le plan, plus de 17,5 milliards correspondent à la construction des centres territoriaux et à l'assistance économique pour les victimes de violences durant 6 mois. Le reste des mesures serait appliqué avec seulement 400 millions de pesos. Il faut faire attention à cela et être vigilant sur la façon dont ces mesures seront mises en place concrètement.
Autre préoccupation soulevée par l'organisation féministe, le peu d'importance que le plan du gouvernement semble accorder, selon Mumala, à la question de l'éducation sexuelle à l'école.
L'organisation Mumala accorde un rôle très important à l'éducation sexuelle car elle permet de briser les stéréotypes culturels qui sont très ancrés dans notre société et qui sont bien sûr les fondements de la violence que nous vivons au quotidien. Malheureusement, nous observons que c'est un sujet qui n'est pas enseigné comme il le devrait dans toutes les provinces du pays.
La ministre Elisabeth Gomez-Alcorta assure pour sa part que le ministère de l'Éducation est bien associé à ce plan et que garantir l'enseignement de l'éducation sexuelle à l'école fait partie des mesures prévues. L'accès à cet enseignement est, comme les autres, rendu plus difficile à cause de la pandémie de coronavirus. En Argentine, les cours présentiels sont suspendus depuis la mi-mars et aucune école du pays n'a encore rouvert ses portes. Audevillier Moriamé, Buenos Aires, RFI.
Il est 10h26 à Buenos Aires. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal Outre-mer Première présenté par Odane Agiali. Bonjour Odane.
Bonjour Anne.
Une question à la une aujourd'hui. Comment relancer l'économie locale après des mois de confinement? La région Guadeloupe présente son plan de relance cet après-midi.
Oui, avec deux secteurs prioritaires, l'agriculture et la pêche. Un plan de relance économique qui sera donc présenté tout à l'heure cet après-midi à l'Université des Antilles. Et Marilyn Plaisir a consulté le projet d'une vingtaine de pages.
Avec le virus qui n'en finit pas sa course, le ciel s'est assombri pour l'économie. Alors pour éviter une pluie de faillite et traverser la tempête qui s'annonce, la région va ouvrir son parapluie et injecter un demi-milliard dans l'économie. Désormais, le tourisme n'est plus son cœur de cible, mais le cap des 3 millions de visiteurs est maintenu. Et voici le plan de bataille de la région. Des marchés de gros pour les agriculteurs et leurs acheteurs. Des subventions pour de nouveaux bateaux de pêche. Des aides pour rénover l'habitat et en particulier celui des seniors. Ou un campus santé pour les chercheurs et les étudiants à quelques pas du futur CHU. Un seul objectif, doper la construction et la production locale. Mais comment les décideurs locaux vont-ils tisser le canevas ébauché par la région? Réponse dans les semaines à venir.
Marilyn Plaisir, Guadeloupe la Première. Autre aide, celle apportée aux plus démunis, et ce chiffre 12 000, c'est le nombre de colis distribués par le Centre communal d'action sociale de Cayenne depuis le début du confinement. Une quarantaine de salariés et de bénévoles de la structure participent à des ateliers de confection, livraison, distribution. Parmi eux, d'anciens bénévoles. Au stade scolaire de Cayenne, le reportage d'Isabelle Lerouge.
Boîte de sardines, de haricots rouges, paquets de farine, bouteilles d'huile, savon. Les colis sont composés à la chaîne. Une dizaine de personnes œuvrent entre les sacs de riz et les palettes de denrées. Dès les premiers jours du confinement, Ala Kelmenaz, réfugié syrien, a rejoint l'équipe des bénévoles pour l'aide alimentaire d'urgence.
Quand vous préparez ce colis et que vous savez qu'il va être donné à quelqu'un qui en a vraiment besoin, vous avez un sentiment de satisfaction.
Les bénévoles et salariés du CCAS sont des petites mains indispensables pour la confection, le stockage, le transport et la distribution des sacs de l'aide alimentaire. Claude Bourdin, responsable des bénévoles.
On a des Brésiliens, des Dominicains, ici des Palestiniens, des Syriens, on a des jeunes d'Hexagone, on a des professeurs, on a vraiment de tout dans le groupe.
Les colis seront acheminés vers les 7 sites de distribution. Au plus près des bénéficiaires, 2 colis de 20 kilos chacun par famille, plus un sac de riz de 5 kilos.
Et puis le vol d'Ariane 253 quittera-t-il la base de Kourou ce soir? Voilà 5 mois qu'aucune fusée ne s'était lancée depuis le centre spatial guyanais. Nouveau décollage prévu donc à 18h30, heure de Guyane. Bonne journée.
Bonne journée à vous, Odanaji Ali. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera Adrien Delgrange qui sera là. 15h10, heure de Paris. 9h10, heure de Port-au-Prince. Très très bonne journée à tous.